fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour à tous, bonjour François Thirion.
Bonjour Michel Valmer. Bonjour chers auditeurs de JetFM qui êtes à l'écoute de notre émission hebdomadaire
Fantômes et merveilles.
Émission sous-titrée aujourd'hui
Vertige et Poissons.
Ou plus exactement
Portrait d'une praticienne de la médecine en pays ligérien.
Ligérien. Afin de poursuivre, comme nous l'avons déjà dit, nos interrogations et réflexions sur une histoire qui nous intéresse au plus haut point, à savoir
la santé en général et en particulier la santé mentale.
Alors,
oui, mais plus exactement, la santé mentale vue par le biais du théâtre. parce que une réflexion avait été soulevée par notre invité, à qui nous n'avons pas tout à fait eu l'honneur de dire bonjour.
Bonjour à vous deux, bonjour Michel, bonjour
Françoise.
Bienvenue
dans ce studio.
Merci.
C'est cette question de la différence entre la douleur et de la souffrance. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors,
ça revient au corps et à l'esprit, peut-être.
Oui, alors...
Forcément, je ne sais pas.
Je pense que ce que Ricoeur a laissé comme message à travers cette souffrance qui n'est pas une douleur, c'est que la vie en soi, ou dans la vie en tout cas, nous sommes confrontés à la souffrance parce que nous existons. Et je pense tout d'un coup à ce qu'on dit et ce qu'on dit aux enfants également. Quand quelqu'un est mort, il ne souffre plus. Et le fait de dire cela, c'est que dans la vie, on est confronté à la souffrance, mais à la souffrance existentielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on cherche dans notre chemin à rétablir un certain équilibre entre le corps et l'esprit, et dans un chemin qui nous convient. Et par la parole, justement, ce chemin s'éclaircit. Et on revient à la souffrance morale. Mais en tout cas, je pensais, puisque vous parliez de théâtre, que la souffrance morale confronte le sujet à un espace de vérité. Mais David Lynch disait, c'est comme un lever de rideau. Et je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui se révèle, et comment nous, on fait face à ce quelque chose qui se révèle. Par exemple, une maladie grave, cet inconnu qui arrive dans la vie. Forcément que là, on est face à une souffrance. Comment un être humain va se débattre dans cette histoire, c'est-à-dire comment il va se retrouver confronté à cette souffrance, mais du côté de la vie, comment va être sa vie avec l'annonce qui lui est faite de cette pathologie grave, et comment justement une autre personne va se retrouver aussi confrontée à la souffrance de la séparation d'un être qu'elle aime particulièrement et qui tout d'un coup disparaît. Et comment cette personne va se confronter à ce manque, à cette réalité-là. Et donc, par la parole, par l'espace de parole, eh bien, nous pouvons en effet l'accompagner dans cette épreuve.
Est-ce par hasard ou est-ce complètement dirigé par votre impulsion, votre intuition, disons, que vous avez dirigé ce service d'enfants malades en fin de vie ?
Alors, en fait, les événements de l'hôpital m'ont conduite là. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai été psychologue, là, quand j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai intégré un réseau de soins palliatifs nantais qui s'appelait RESPAVI et qui maintenant s'appelle COMPA, qui donc est une équipe qui prend en soins des personnes vivant les derniers moments de leur vie, et notamment cette équipe se déplace et à domicile mais aussi à l'hôpital auprès des soignants qui accompagnent l'événement de la mort auprès de personnes de tout âge, puisque ça peut être des adultes et ça peut être des enfants. Alors, de la situation où j'étais dans le réseau de soins palliatifs, forcément confrontée à la vie et confrontée à la mort, confrontée à la maladie grave, un jour, il y a eu une place qui s'est proposée là en oncologie pédiatrique et en hématologie pédiatrique. C'est-à-dire une place où les enfants souffraient de pathologies du sang, puisqu'il s'agit là de pathologies sanguines comme la leucémie. Et puis, en hémato, eh bien, nous avons des pathologies graves, comme peu connues d'ailleurs, qui s'appelle la drépanocytose, qui est une pathologie qui touche les populations, notamment africaines, une maladie génétique qui produit des douleurs absolument intenses dans le corps par la malformation de globules rouges. Nous avons, nous, des globules rouges ronds, en bonne forme, qui transporte l'oxygène. Et dans cette pathologie-là, il y a une malformation des globules rouges. Ils sont en forme de faucilles. Donc, ils apportent moins d'oxygène. Ils entraînent des micro-infarctus dans le corps et des douleurs absolument intenses. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec ces enfants et justement, qui témoignaient de la douleur. La douleur de ces enfants pouvait être traitée par l'hydratation, l'oxygène et forcément les antalgiques comme la morphine. D'une manière assez spectaculaire, quand ils ont accès à ces soins, ils peuvent justement traverser cette épreuve, mais qui peut ressurgir à tout moment quand, par exemple, il y a des périodes de températures différentes comme le froid, etc. En tout cas, c'est des pathologies qui sont inscrites déjà en eux, puisque c'est génétique, et qui peuvent se réveiller de temps en temps quand il y a justement des changements de climat, enfin, ou autres. Je ne peux pas là me lancer dans une conversation médicale, mais moi, je les accueillais dans leur situation de douleur qui durait par exemple une semaine sous ces calmants. Ils étaient prisonniers, enfermés dans leur corps. Et ils avaient des positions dans leur lit qui étaient comme position fœtale pour pouvoir supporter toute cette grosse douleur. Et en fait, moi j'intervenais là en tant que psychologue, mais sachez que quand on a très mal, il est bien compliqué de s'exprimer et de parler de cette douleur. Et je commençais par les rencontrer avec ma pratique de sophrologue. Sophrologue, c'est accompagner aussi l'autre d'une manière à ce qu'il puisse trouver dans son corps du réconfort par la respiration.
Bon, on va faire une petite pause.
C'est pour respirer.
Pour respirer, le sujet est très passionnant. On ne parle pas du morceau, on en parle après.
D'accord.
Allez, on écoute.
D'accord.
Thank you.
Vous êtes bien sur Jet FM, à l'écoute de l'émission de la compagnie nantaise Science 89, Fantômes et Merveilles. Et nous sommes en compagnie de Catherine Héry Chauvet, spécialiste des comportements psychologiques en Pays de la Loire. Nous venions juste avant ce morceau de parler de la mort, on va y revenir. Mais pourquoi vous avez choisi ce morceau et qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce morceau, il vient du film Mulholland Drive de David Lynch, que vous connaissez sûrement. Et tout à l'heure, je vous parlais de lui parce qu'il parlait de la souffrance morale qui confronte le sujet à sa vérité comme un lever de rideau. Alors lui, il est parti dans ce film d'un rêve, en fait, dans lequel on cherche à trouver l'énigme, mais en même temps, il a pour cette énigme-là est sous la forme d'une clé, une clé qui n'ouvre aucune porte.
Ah.
Voilà, une clé qui est vraiment l'objet qui est là, mais qui n'ouvre aucune porte et qui ne correspond à rien. Alors, moi, je trouve qu'en tant que thérapeute, ce qui est intéressant, c'est d'aider le patient à trouver la clé par la parole, par sa parole, mais pour sa serrure. Voilà, et c'est pourquoi je vous ai apporté là une clé. Je trouve que c'était intéressant
voilà.
comme objet,
une oui, clé c'est une
dorée
clé.
Pour l'instant.
Oh, oui, oui.
Et c'est vrai qu'une clé qui... parce qu'on essaye toujours de trouver la réponse. Mais je pense aussi aux enfants qui sont bien attirés, pas seulement par la clé, mais par le trou de la serrure, pour découvrir ce qu'il y a derrière la porte. Alors,
la grande curiosité.
Voilà. Donc, la clé reste la clé de l'énigme, de mystère, mais aussi la clé peut-être de...
Le trou de serrure.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ?
L'œil posé au trou de serrure. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de la vie ? Françoise Thirion a écrit une pièce là-dessus qui s'appelle « Kim San, c'est quoi l'éternité ?» Si vous le permettez, on va en lire la première page.
D'accord. Et il faut d'abord dire que l'avant-propos, c'était parler de la mort.
Oui.
Mais plus précisément, parler de la mort des enfants et parler de la mort des enfants avec des enfants. Donc nous mettions en scène des enfants qui ont été confrontés à la mort et comment ils se retrouvent dans l'éternité.
Et Catherine, ici présente, a accompagné ce travail d'écriture, mais surtout d'écriture scénique.
Mais surtout d'avoir l'idée de mettre en scène des enfants qui sont morts et qui se retrouvent sur une planète inconnue, qui est la planète de l'éternité.
C'est ce qui
Alors,
nous
on lit la première page.
Alors, le personnage, c'est Kim, c'est une jeune fille qui est morte à 5 ans, et Sam, un jeune garçon mort à 13 ans, celui-là. Alors, c'est ça l'éternité ?
Faut croire.
Et croire en quoi ?
En rien.
C'est impossible.
Tu crois que c'est impossible de ne croire en rien ?
Je sais pas.
L'éternité, c'est comme le paradis ?
Ou comme l'enfer.
L'enfer, le paradis, ce sont des sornettes.
Il y a des gens qui ont eu d'autres pour ce genre de sornettes.
Oh là là !
Ça veut dire quoi ? Ouh là là !
Bah, ça veut dire que c'est grave.
Je vois ce que tu veux dire.
Ah oui ? Et qu'est-ce que je veux dire ?
Que c'est grave de mourir pour des sornettes.
Ouais.
De toute façon, c'est grave de mourir.
C'est la première scène. Là, vous êtes d'accord ? C'est grave de mourir ?
Et en fait, ce qui est intéressant, là, c'est leur conversation, puisqu'il s'agit de témoignages. Leur conversation face à l'événement de la mort ou la possible mort. Il y a même un livre qui était intéressant, qui est Oscar et la Dame Rose, qui de... Comment il s'appelle ? Du kinésithérapeute, là. Vous allez retrouver sûrement. Excusez-moi.
Ah, peut-être pas. Moi, je suis actrice.
En tout cas, c'était retracé, en fait, l'histoire d'un enfant confronté, en effet, sa maladie et peut-être la mort possible pour lui, mais à la mort des autres également. Et dans un service de soins comme celui où je travaillais là, en fait, il y a en effet des enfants qui guérissent et des enfants qui ne vont pas guérir, qui vont être sur un autre chemin. Et la conversation se retrouve dans la salle de jeu. Ce qui est intéressant, parce qu'une salle de jeu, c'est je me mets en scène, alors si on retrouve le théâtre, de ce que je ressens et de ce que je vis. Et quand même, celui-là, tu as vu qu'il a perdu tous ses cheveux. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et est-ce que tu crois que moi, je vais perdre mes cheveux ? Ou alors, une 10 ans. Mais vous savez, moi, j'ai un oncle qui n'a plus de cheveux non plus. Donc, relater un peu dans leur univers la curiosité, on parlait de ça tout à l'heure, la curiosité de l'enfant face à ce qui arrive pour lui, mais aussi pour un autre. Et ils sont très attentifs à ce qui se passe pour un autre.
Merci encore pour toutes ces précisions qui sont totalement éclairantes. Notre émission, malheureusement, se termine.
Oui, nous continuerons cette conversation l'année prochaine parce qu'il faut voir que ce service existe encore à l'hôpital Saint-Jacques. Non, pas à l'hôpital Saint-Jacques, au CHU de Nantes,
de Nantes.
Mais que le relais est pris à l'hôpital Saint-Jacques, bien évidemment, et que c'est quand même une thérapie très importante qui aide les enfants à passer ce stade de la mort dans la joie, disons.
Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.